Ouais, c'est un trou paumé. Hein. C'est une petite ville comparée à Niort où déjà il se passe plus de choses. Il y a des grandes villes un peu où c'est quand même mieux. Là, c'est compliqué. Faut soit avoir un scooter pour se déplacer, pour aller au collège. Il n'y en a pas beaucoup, les lycées non plus. Donc.
Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours aussi grisant de vous retrouver pour un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen. Pourquoi vous n'y croyez pas, Cyril ? Vous ne croyez pas à ma sincérité ?
Non.
Je suis grisé. Chaque après-midi, deux heures pour décrypter notre époque à travers ces mots, ces expressions. Et aujourd'hui, justement, on va zoomer sur un mot valise de toute beauté, une expression parapluie dont le flou relève presque de l'art abstrait. Une sorte de Jackson Pollock du verbiage politico-administratif, puisqu'en effet, seuls des conseillers en cabinet ministériel ne quittant Paris qu'une fois l'an pour rejoindre leur résidence secondaire sur l'île de Ré pouvaient accoucher, pour remplacer l'expression désormais jugée trop péjorative de province, de ce nouveau mot effectivement beaucoup plus cool. Les territoires. C'est vague, ça veut rien dire, ça englobe le bocage normand et les massifs alpins, les villages corses et les cités ouvrières du Nord, mais c'est comme ça désormais, il faut parler des territoires. Alors on va en parler avec quelqu'un qui, contrairement à Manon, s'intéresse aux territoires. Mais tu y es vraiment allé, lui demandera Manon, épaté par l'audace de notre invité, qui lui répondra que oui, elle y est vraiment allée. Alors est-ce parce qu'ils l'ont rebaptisé territoire au pluriel que les parigots comprennent mieux ce qu'on appelait jadis la province ? Pourquoi n'y a-t-il d'ailleurs qu'à Paris qu'on parle de territoire ? L'individu originaire d'un patelin de la Creuse se revendique comme issu du territoire n'étant pas encore né. Zoom Zoom Zen spécial, rendez-vous en terre inconnue au-delà du périph. C'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Bonjour Salomé Berlioux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Salomé, vous êtes cette femme qui force l'admiration de Manon, entrepreneur social, fondatrice et directrice générale de l'association Rura, une association qui lutte contre les fractures territoriales en s'appuyant sur la jeunesse des zones rurales et des petites villes. Vous avez écrit de nombreux livres, notamment Les Invisibles de la République en 2019, et vous revenez avec Loin de Paris, raconter les territoires, un livre collectif que vous avez dirigé avec Félix Sassouli et qui est publié aux éditions de l'Aube. Avec vous, on va donc essayer de comprendre dans cette France ataviquement jacobine, ce rapport complexe qu'on a au territoire. Juste le temps de vous présenter deux journalistes qui connaissent bien nos territoires. L'un a passé 27 ans de sa vie dans la campagne alençonnaise, l'autre une semaine au ski à Méribel. Manon Mariani, Quentin Louis, bonjour.
Bonjour. Bonjour, bonjour à tous.
Moi je me revendique des territoires, moi.
Vous avez une chronique qui s'appelle la PQR.
Donc oui. C'est pas comme ça. Oui.
À vos côtés.
C'est pas grave, c'est pas grave.
Ça prend ça lui.
Voilà, merci. Pas, voilà. Commencez pas à vous engueuler, on a deux heures d'émission. À vos côtés, Salomé Berlioux. Elle a lu avec attention votre livre Loin de Paris, car elle aime la science-fiction. Mais page 36, elle a décroché quand vous écrivez « J'ai grandi à Lurcy-Lévis, à proximité de la forêt de Troncé, du centre équestre, du PMU et des étangs. » On a été obligé de la réanimer et de la transporter d'urgence dans le premier bistrot à côté de Radio France afin qu'elle réalise, en prenant un Hugo Spritz à 18 balles, qu'elle était bien à Paris. Manon, chaque après-midi, vous nous présentez l'autre personne à suivre sur notre sujet du jour.
Oui, une réalisatrice qui vient de remporter un César pour un film qu'on pourrait qualifier d'un film de territoire tourné 100% dans le Jura avec des Jurassiens par une Jurassienne.
Face à vous, Salomé, lui, il n'a pas grandi à Lurcy-Lévis dans l'Allier, mais à Alençon dans l'Orne, c'est pareil, avec le Bayocos en plus. Boîte de nuit, très chicos, le Bayocos, comme dirait Benjamin Tranier. Cette France des territoires où le Hugo Spritz n'existe pas, où les cocktails valent 8 euros.
Mais pas de cocktail.
Et où surtout, il ne viendrait à l'esprit de personne de se taper une demi-heure de queue pour acheter une tresse nordique sans gluten dans le dernier bar à pain encensé par le fooding. Vous venez de là, Quentin. Est-ce que, comme moi, vous trouvez ridicule de faire la queue pour acheter une baguette ?
On ne fait pas la queue. On reprend la voiture, on va dans une autre boulangerie.
Mais, voilà. Évidemment. Mais encore un bon point pour les territoires. Chaque après-midi, Quentin, vous partez à la rencontre des passants pour les faire réagir à notre mot du jour. Alors, pour les territoires, vous êtes parti dans les territoires, j'imagine.
Dans les Deux-Sèvres, Mathieu, j'ai fait une halte pendant les vacances dans la petite ville de Thouars, 14 000 habitants. Comment on vit dans une petite ville, des anciens, des jeunes, des actifs ? J'ai posé la question dans ce micro-trottoir complètement à la rue.
Vers 16h30, alors que le débat pain au chocolat chocolatine fait toujours rage entre Cyril et Pierre, nos rédacteurs en chef, nous partirons à la découverte des expressions régionales les plus savoureuses.
Oula.
Manon, qui en soirée dit peu cher dès qu'elle a passé les 2 grammes,
bon,
c'est-à-dire globalement toute la soirée, partira avec un net avantage. Juste avant 17h, on retrouvera une amoureuse des territoires et notamment de la côte basque où elle a tant de souvenirs. Tania Dutel sera avec nous. Mais d'abord, Salomé Berlioux, vous dites que les territoires, c'est un grand tout, flou, et indistinct. Mais c'est pire que province, finalement, territoire.
Oui, alors de façon très ironique, c'est strictement la même chose, en réalité. Territoire is the new province, c'est une évidence. Et donc, en gros, concrètement, c'est un terme qui s'est imposé à peu près après le mouvement des Gilets jaunes, le premier confinement, avec l'arrivée assez symbolique de Jean Castex à Matignon. On ne l'avait pas choisi par hasard et il incarnait quelque part cet homme des territoires, accent chantant compris. Et donc, les territoires, pour le dire de manière peut-être un peu plus précise, c'est effectivement dans l'imaginaire collectif tout ce qui n'est pas la capitale, tout ce qui n'est pas Paris, avec peut-être quelques exceptions faites, Lyon,
voilà.
Bordeaux, etc. Donc vous avez les zones rurales, les petites villes, certaines villes moyennes quand elles sont mal connectées notamment, certaires zones pavillonnaires, les territoires ultramarins.
C'est grosso modo toute la France, quoi.
Exactement.
À l'exception de quelques...
40 millions de Français, ouais. 60% d'entre eux qui vivent dans ces territoires-là, avec donc des images d'Épinal dont on aura peut-être l'occasion de parler. Et ce qui est vrai, c'est que chez Rura, on cherche à déconstruire un certain nombre de clichés autour de ces territoires de manière à les repeupler, à les densifier, à les incarner et à en parler de manière plus subtile que ça n'est fait jusqu'à présent.
Lui, dans sa jeunesse, on ne parlait évidemment pas de territoire ni même de province, mais de royaume. Quand il a eu 18 ans, sous Louis VI le Gros, il n'y avait pas cette opposition stérile Paris-Province. Et pour cause, le jacobinisme révolutionnaire n'avait pas encore instillé dans ce pays le poison de la centralisation. C'était le bon temps, marmonne souvent notre rédacteur en chef, en caressant le médaillon que lui avait offert Saint-Louis pour sa confirmation. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour.
Vous l'avez là.
Oui, je l'ai absolument.
Gardez le champ sur vous.
Louis.
Évidemment.
Qui nous écoute.
Toujours. Racontez-nous, vous qui avez le recul historique suffisant, les territoires d'où ça sort.
Eh oui, territoires d'où ça sort. Je vous propose ce qu'en dit Georgia Courtesi Philippakis, une spécialiste de la préhistoire ancienne, de la Grèce et des Balkans. Je la cite. D'un point de vue étymologique, le terme territoire viendrait du latin territorium, mais selon un recueil de jurisprudence civile élaboré en 533, ça remonte, le terme a en fait un lien direct avec le juris terrandi, c'est-à-dire le droit de terrifier.
Mais,
terrifié, absolument terrifié. Mais toujours, selon la chercheuse, il est plus raisonnable de rattacher le terme territorium à celui de terre. Et puis, il est aussi très probable que certains latins pratiquaient un jeu de mots qui associait le contrôle d'une terre au pouvoir de la protéger par la menace. Fin de citation. Quelle histoire, donc.
Jusqu'à présent, c'est aussi compliqué qu'un zoom-zoom test des grands jours. Vraiment, on est déjà perdu au bout de trois
fois. Il y a du latin.
Je vous dis qu'il y a vraiment... le droit de terrifier et le droit de posséder la terre, mon vieux.
Mais je te taquine.
Au XIIIe siècle, le terme territoire fait désormais partie du vieux français. Il désigne toujours une zone placée sous une autorité. Par exemple, on parle du territoire d'un seigneur avant que la notion s'élargisse pour désigner un espace délimité, espace qui peut être politique ou administratif.
Mais alors maintenant, à quoi ça correspond un territoire ?
À tout, à n'importe quoi, on a commencé à le dire et c'est un problème. Il y a le territoire national, la France par exemple, ça peut être les territoires au sein même du territoire national, un département, une région, une zone du pays, les outre-mer également. Il y a même désormais les territoires numériques. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que territoire, ça peut s'appliquer à tout, à peu près tout, sauf Paris. Avant, on disait région, on parlait aussi de province, désormais on parle de territoire, comme si c'était plus concret, plus ancré dans la réalité, comme si, en le disant, celui qui l'utilise était plus sincère. Une notion à la mode, dit notre invité Salomé Berlioux, une notion floue et vague aussi. Alors c'est quoi un territoire ? C'est quoi la vie dans les territoires ? Est-ce que les territoires c'est un bloc homogène ? Est-ce qu'on n'a pas une vision trop idyllique ou trop négative de ces territoires ? Pourquoi les politiques se sont appropriés ce terme ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Salomé Berlioux, pourquoi il y a eu cette irruption de ce terme « territoire » ? C'est que le mot « province », il était devenu trop péjoratif ?
Encore une fois, il était question de peut-être adresser des signaux un peu neufs, un peu plus positifs à des lieux, des territoires qui avaient fait parler d'eux et qui, politiquement, n'étaient peut-être pas aussi calmes qu'ils l'avaient été par le passé. On voit bien que, et sans tomber dans les caricatures, Paris regarde les territoires ruraux, notamment, et les petites villes, à certains moments bien précis, quand il y a des crises, les mouvements des Gilets jaunes, les crises des agriculteurs, quand on se demande si peut-être par hasard ces territoires ne vont pas mal voter, comprendre pour le Rassemblement national aux prochaines élections. Et donc on voit bien que dans toute cette logique-là, on a une représentation complètement parisiano-centrée de ces territoires et des récits qui en sont faits. En gros, les territoires sont pensés par rapport à Paris. Quand Paris s'imagine grande, vaste, ouverte, elle va concevoir les territoires comme au contraire fermés, rétrogrades, sans ouverture sur la mondialisation. Quand la ville s'imagine polluée, elle imagine que c'est beaucoup plus simple et doux de vivre à la campagne. Et puis, il y a évidemment ce raccourci
contre lequel chez Rura on travaille beaucoup, qui consiste à dire qui dit territoire dit ruralité, qui dit ruralité dit agriculteur, ce qui non seulement est faux, mais ce qui est assez dangereux en définitive, puisque quand on arrive à ce raccourci-là, on considère qu'on s'adresse en réalité à toute la ruralité, alors que rappelons-le, les actifs ruraux, c'est 5,7% des actifs dans la ruralité. Donc ça veut dire qu'on ignore à peu près 94% des habitants de ces territoires, dans les récits qui sont faits de ces territoires-là, dans les solutions qui sont pensées pour ces territoires-là. Et c'est là où ça devient non seulement gênant, mais encore une fois même dangereux sur les plans économiques, sociaux et politiques.
Mais c'est le principal problème, c'est d'avoir inventé un terme un peu parapluie pour désigner des territoires qui n'ont parfois rien à voir entre eux, en
Exactement,
fait.
Exactement, qui sont très différents. Alors après, et ça je pense que ça, c'est tout l'intérêt de ce sujet, c'est qu'effectivement, les territoires sont très différents. On a cité le type de territoire dont il pouvait être question. Et puis ça peut être la montagne, les plaines, ça peut être les vignes, ça peut être le nord de la France évidemment ou le sud et les territoires ultramarins. En revanche, une de nos convictions chez Rura, et c'est tout le sens d'ailleurs du livre Loin de Paris et de la collection Raconter les territoires que nous avons lancé avec ce livre, notre conviction c'est qu'il y a en revanche un vécu commun qui rapproche les habitants de ces territoires-là. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on ne rature pas dans cette association chez Rura le terme de territoire, mais qu'on décide de s'en emparer, de déconstruire les clichés qui en sont faits et de le repeupler, d'essayer d'apporter de la nuance, des récits, des figures d'incarnation. Vous parliez tout à l'heure des politiques, c'est quand même amusant, pour ne pas dire ennuyeux, de voir que ceux qui se revendiquent de ces territoires, ça va être en gros les députés, parce qu'ils ont besoin d'un storytelling qui s'y situe, ou éventuellement les chefs cuistots, parce que là on peut imaginer quelque chose avec les mains dans la terre, mais jamais par exemple un Thomas Pesquet ne va raconter qu'il vient lui d'une toute petite commune, et jamais d'ailleurs les journalistes ne lui poseront la question de cette appartenance.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
De même que la diagonale du vide n'est pas vide, les territoires, comme on les appelle depuis Paris, ne sont pas uniformes. On zoome sur cette notion de territoire avec la directrice générale de l'association Rura, Salomé Berlioux. Salomé, vous dites quelque chose d'important dans votre livre « Loin de Paris, raconter les territoires », que la surabondance de clichés sur les territoires et la ruralité crée de la frustration chez ses habitants qui ne se sentent pas véritablement représentés.
Oui, parce que, encore une fois, quand on voit les récits qui sont faits de ces territoires, on voit qu'ils se focalisent notamment autour de la question donc, de la ruralité, alors que les territoires dont il est question comptent aussi, rappelons-le, les petites villes, les villes moyennes, etc. Et puis sur la question notamment de l'agriculture. Et ça, c'est véhiculé par les publicités, c'est véhiculé par la littérature jeunesse, où en gros, quand on parle de la campagne, on imagine forcément une jolie petite ferme avec un toit rouge et un tracteur et un fermier avec un chapeau de paille. C'est véhiculé par les séries, c'est véhiculé par les programmes politiques, évidemment. Et donc, en fait, on a des gens, et encore une fois, il s'agit de 40 millions de Français, qui sont coincés entre l'amour est dans le pré ou l'invisibilité. Ce qui est, en fait, assez limité en termes de capacité à se représenter. Et donc, tout le défi, c'est de ne pas limiter ces territoires à une ferme et un tracteur, et de comprendre toute la subtilité des lieux et qui vont des ronds-points au buffet chinois à volonté, en passant par les abribus, en passant par les magasins Action, et puis évidemment les écoles, enfin tout ce qui fait des lieux de vie, et puis surtout d'essayer de comprendre la réalité des habitants de ces territoires-là, et de comprendre un certain nombre de thématiques qui, de manière transversale, dépassent très largement la question de l'agriculture, question ô combien légitime, mais très restrictive par rapport aux enjeux de ces territoires-là. Je pense par exemple à un exemple qui est donné et raconté dans Loin de Paris par Jérémy Pelletier, le directeur général de la Fondation Jean Jaurès, à travers un chapitre dans lequel il parle de sa bagnole. C'est le récit d'un jeune et de son lien avec sa voiture dans la Sarthe, en l'espèce. Ben, on voit bien que l'enjeu de la mobilité sociale, mais notamment la mobilité géographique, elle est centrale dans ces territoires-là. C'est-à-dire qu'en gros, le présent et le futur des habitants de ces territoires, des jeunes, mais aussi de leurs parents avant eux, pour mal citer le prix Goncourt Nicolas Mathieu, c'est évidemment un présent et un futur déterminé par une histoire de kilomètres. Tout suppose de prendre la voiture, et je vous donne un chiffre seulement issu de notre enquête Rura avec l'Institut Terram. Les jeunes ruraux passent 2h37 par jour dans les transports. C'est 3/4 d'heure de plus que les jeunes urbains, soit 3/4 d'heure de moins pour faire du sport, rêvasser, faire leurs devoirs, etc.
On dit aussi en région, on parle du mot territoire, mais on utilise, les politiques aussi disent en région. C'est mieux, c'est mieux que province, c'est mieux que territoire.
C'est là où, en réalité, peu importe ce terme valise, quelque part, du moment que derrière, on arrive à raconter des réalités et à comment dire, répondre à des enjeux qui sont réels. Le recul des services publics, et notamment des déserts médicaux, les enjeux, évidemment, d'accès à la culture. On a un jeune rural sur deux qui estime se priver d'accès à la culture par manque de transport ou par éloignement des opportunités. Donc on a quand même tout un tas de dispositifs de politique publique aujourd'hui, passe culture en tête d'ailleurs, qui ne sont pas pensés pour s'adresser à ces jeunes. Les questions d'accès aux études supérieures. En fait, il faut se le dire, alors que un Français sur trois vit dans la ruralité, et si on prend les habitants des petites villes, des villes moyennes, etc., on est à 60% des Français, eh bien la ruralité, pour ne prendre que cet exemple-là, c'est un amplificateur des défis qu'on retrouve à l'échelle nationale. Si vous prenez chaque défi et que vous l'appliquez dans ces territoires-là, ça veut dire que ce sera plus compliqué.
Dans votre livre, il y a aussi un chapitre consacré au délitement du service public dans le milieu rural. Un délitement qui peut avoir des conséquences pour les femmes en particulier. Pour quelles raisons ?
Oui, voilà, c'est un très bon exemple qui est dépeint dans Loin de Paris, notamment par Emilie Agnew, qui raconte de manière très précise à quel point... quand on est une femme, pour le dire un peu rapidement, et ça c'est une problématique nationale, c'est souvent sur soi que reposent les démarches administratives, la charge mentale et la logistique liées aux enfants, liées aux parents âgés, etc. Et que forcément, dans ces territoires-là, sachant que tout est plus loin, que les services publics reculent, que les horaires sont plus limités et qu'il y a plus de kilomètres à faire, ça veut dire que ça complique très largement la vie des femmes et que ça peut avoir un impact, notamment sur leur emploi.
Selon le compte Instagram Même Ornais, le chiffre d'affaires du Bayocos, principale discothèque d'Alençon, aurait bondi de 50% depuis qu'on en parle à longueur d'émission. À l'instant, le patron de ce bel établissement où Cyril refuse de se rendre parce que, je le cite, on doit y croiser des blousons noirs, eh bien, le patron me signale qu'on est les bienvenus et que même la deuxième bouteille de Charles Vollner sera offerte. Tout ça, c'est grâce à vous, Quentin, qui nous avez fait découvrir ce temple du chic normand.
Un temple.
On ira, effectivement, on tous ira. Ensemble. Cette notion de territoire, vous êtes allé en discuter justement dans les territoires, dans les Deux-Sèvres.
Nouvelle-Aquitaine, c'était le deal avec mon père qui vit au sud de Tours. Je lui avais demandé de me conduire avec sa voiture dans une petite ville pas trop loin pour aller déjeuner ensemble et que je puisse au passage enregistrer des gens dans la rue. Après 1h30 de route, nous arrivons à Thouars, 14 000 habitants, on passe devant deux cimetières et mon père me souffle qu'à ce rythme-là, je vais trouver plus de morts que de vivants à interviewer. Ça me fait sourire, mais je tombe sur ma première rencontre, bien vivante, bonjour.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur, quel est votre prénom ?
Claudine. Ça fait combien de temps que vous vivez à Thouars ?
Oh, ça fait depuis 73 territoires.
Vous savez, aujourd'hui, on dit les territoires, en région. Mmh. On a enlevé le mot province.
Oh, les politiques, ils nous prennent un peu pour des imbéciles, hein. Quelquefois. On est un peu des ploucs, quoi.
Alors, le droit de réponse est arrivé, sur la première radio de France, en plus. Claudine, qu'est-ce qu'on répond aux politiques ?
Hein, s'ils vivaient ailleurs que dans leur... bureaux, ils se rendraient peut-être compte de certaines choses qui vont pas. Parce qu'à toi, il y a plein de trucs qu'on n'a plus. Hein. Bah, les impôts, l'hôpital, on n'a plus d'hôpital. Dans les petites campagnes, les écoles à ferme parce qu'il y a de moins en moins d'enfants.
Et pourtant, on me le disait à l'instant, c'est joli. C'est une ville d'arrêt d'histoire.
Ah oui, c'est joli parce qu'on a le château, on a plein de petits trucs qui sont jolis.
Elles sortent de l'auto-école, elles ont l'air jeunes. Pourtant, quels sont leurs prénoms ?
Moi, je m'appelle Lilou.
Moi, Salomé.
J'ai 15 ans.
15 aussi.
Qu'est-ce que vous faites, vous, là ?
On vient de finir le stage code, là. Enfin, la journée du stage code.
C'est quoi, ça ?
Bah, en fait, quand on est quand on a 14 ans, on peut faire un stage code de 3 jours pour après passer le permis à 17 ans.
Nous parlons de la ville où elles ont grandi, où elles passent leur adolescence.
Ouais, c'est un trou paumé, hein. C'est une petite ville comparée à Niort, où déjà, il se passe plus de choses. Là, c'est compliqué.
Pourquoi ? Quand on a 15 ans, c'est compliqué ?
Bah, pour faire des sorties avec ses amis, c'est plus compliqué. Faut soit avoir un scooter pour se déplacer, pour aller au collège, il n'y en a pas beaucoup, les lycées non plus, donc...
Ouais, la mobilité est beaucoup revenue dans mes échanges, et ce permis à 17 ans, croyez-moi, dans les territoires, justement, ça veut dire quelque chose. Lui, il est mobile, il sort d'un véhicule utilitaire, cheveux en brosse, pantalon de chantier...
Bonjour.
Salut.
Salut.
C'est quoi votre prénom ?
Romain.
Romain, vous avez quel âge ?
20 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis paysagiste.
Il découvre le mot qui nous intéresse aujourd'hui.
Qu'est-ce que je dois en penser du territoire ? On est bien desservi quand même, on a tout à côté, il y a des zones commerciales. On n'est pas non plus comme si on n'est pas paumé, quoi. On n'est pas comme à la campagne où vraiment il n'y a rien, quoi.
Il y a beaucoup de jeunes, comme toi ?
Ouais, enfin, ils font un peu de tout ici. Hein. Beaucoup d'agriculture quand même. À toi. Ouais, des jeunes, ouais, ils sont toujours dans leur tracteur, ils sont contents de leur métier.
Lui, il sort d'un camion blanc où on peut lire une phrase en noir et un QR code. Je l'attrape au vol, bonjour.
Eh bien bonjour, je suis Teddy Gerbier, j'ai 38 ans et dans la vie je fais jouer les gens dans un complexe de loisirs à Tours. On fait du laser game aussi, du gel blaster, de l'airsoft, du tir sur cible, plein d'activités de loisirs en fait.
Il a racheté une ferme après le Covid qu'il a transformé en lieu de loisirs et au début c'était pas si facile.
Donc quand on est arrivé à Tours, il y avait une piscine, il y avait un cinéma mais en loisirs c'était très pauvre et les gens nous disaient souvent ça ne marchera jamais à Tours. Parce que ville d'art et d'histoire. Et nous, on y a cru, et donc du coup, on l'a imposé sur notre camion avec juste un QR code pour que les gens cherchent qui on est et essayent de nous trouver.
Et ça a marché ?
Eh bien, ça fait 5 ans qu'on est là, et on n'a pas prévu de partir. On a acheté nos murs, on a acheté nos terrains, donc on va rester là un petit moment.
Déambuler dans les rues de la ville avec comme pub sur le camion, ça ne marchera jamais ici. C'est osé, et j'aime bien. On discute de ce qu'on appelle désormais les territoires.
Ça reste une petite ville, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on prend plus le temps pour tout. Pour vivre, pour faire ses courses, pour rencontrer notre voisin, pour passer un peu de temps avec les gens du village et tout ça. C'est quelque chose qu'on n'a pas dans les grandes villes. Dans les grandes villes, vous êtes au milieu de 10 millions de personnes, on s'en fout de vous. Là, vous arrivez à la campagne, à Tours, tout le monde se connaît plus ou moins, les commerçants se connaissent, les entrepreneurs se connaissent tous. Le noyau associatif fait vivre la ville de Tours. Tours, on retire toutes les associations, il y a plein de choses qui ne se passent pas.
Avant de le laisser filer, je lui demande les infos sur le fameux château de Tours.
Ouais, à Tours, donc on a un ancien château qui est devenu un collège et tous les gens qui prennent la route de Parthenay en fait passent devant et c'est un peu la carte de visite de Tours quand on arrive. Et les jeunes font tous leur rentrée scolaire sur la musique d'Harry Potter parce que c'est le château type Harry Potter. Donc tous les gamins font leur rentrée sur la musique d'Harry Potter.
À Tours, on fait ça.
AMTA, ouais, ils font ça. Là. Ils ont pris une belle rentrée.
Il y a donc une part de magie à vivre et à se lancer dans les régions. Et sans le faire exprès, le nom de la ville sera ma chute. Pas de hasard pour le territoire.
Il a osé.
Pas mal.
Je me demandais s'il le ferait, il l'a fait.
Bien il sûr. Est fier, il est fier.
On l'attendait.
J'ai noté, parmi les activités ludiques, le gel blaster, ça vous n'y avez pas pensé pour notre séminaire Zoom Zoom
Qu'est-ce Zen. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est pas très intéressant, je pense.
Ah, je sais pas, je
vais vous enquêterez, vous enquêterez. Moi, j'ai bien envie de m'essayer au gel blaster. Salut Berlioux. Est-ce que ce territoire des Deux-Sèvres, Tours, dont on entend bien, donc une ville de 14 000 habitants, oui. Quand même, c'est pareil, il dit, t'es dit que tout le monde se connaît dans une ville de 14 000 habitants, moi, ça me surprend. C'est représentatif de...
Alors, ce qui est intéressant, je trouve, dans les différents témoignages, c'est d'abord le fait qu'on voit bien qu'il y a des habitants qui sont très attachés à leur territoire, justement. Et c'est là où il faut avoir un regard quand on parle de ces zones, que ce soit encore une fois les zones rurales, les petites villes, etc., qui ne soient ni essentialisants, ni exotisants, ni misérabilistes. Le fait de dépeindre les défis propres à ces territoires, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut raconter que c'est un enfer d'y vivre. Donc ça, je pense que ça ressort très bien des témoignages. Et en parallèle, un autre élément intéressant, c'est qu'on voit que le récit qui est fait, y compris par les habitants même de ces territoires, est un récit par rapport à la ville, par rapport à la grande métropole. Vous savez, souvent, on peut avoir des gens qui nous interrogent chez Rura sur le thème de « mais en fait, est-ce que vous n'opposez pas les territoires ? Est-ce que c'est pas dangereux de le faire ?» etc. En réalité, il n'y a que des urbains, ultra-urbains pour poser ces questions-là. Dans ces territoires, on n'a pas l'impression d'une opposition. On la voit, on la sent, on voit bien les différences. Ce n'est pas une opposition de principe. C'est juste que pour le meilleur et pour le pire, la vie n'est pas la même. Et la vie dans ces territoires-là est rythmée par un certain nombre d'éléments communs, dont l'enjeu de la ruralité et dont l'enjeu des questions notamment de représentation. C'est-à-dire que tout le défi, et c'est le défi que nous portons chez Rura à destination des jeunes, vous avez bien fait d'ailleurs de ne pas me lancer sur les jeunes spécifiquement, parce que là, on était mal barrés. Chez Rura, on a accompagné 13 000 jeunes individuellement dans la ruralité, des jeunes qui ont envie de reprendre la ferme de leurs parents, ou des jeunes qui rêvent de devenir pilote de chasse, des jeunes qui ont envie de rester au sein de leur village, ou des jeunes qui rêvent de partir à Singapour.
C'est quoi la proportion ? Il y a plus de gens qui rêvent de rester dans leur village ou leur petite ville ? Plus de jeunes qui rêvent de partir.
Alors ça, c'est très intéressant. Ça fait partie des statistiques qu'on a sorties il y a quelques mois avec justement Rura et l'Institut Terram. En fait, la proportion, elle est égale. La seule chose, c'est qu'on voit que ceux qui ont envie de rester, eh bien, ce sont ceux qui ont le plus de moyens économiques. Parce que ça veut dire qu'ils vont pouvoir être propriétaires, avoir une voire deux voitures pour leur jeune ménage. Ils vont pouvoir aller accéder aux opportunités culturelles en prenant le train. Ils vont pouvoir avoir le meilleur de la ruralité et le meilleur des grandes villes.
Et ceux qui ont envie de partir, ils ont forcément envie de partir dans une grande ville ou aussi dans d'autres territoires.
Autre élément très intéressant,
C'est-à-dire que souvent, les ruraux, ils s'imaginent rester vivre dans la ruralité ou éventuellement vivre dans une petite ville. Et quand on étudie l'inverse, donc nous, on a fait des études avec des grosses cohortes en comparaison pour des habitants, des jeunes dans les grandes métropoles, eux s'imaginent quasiment aussi bien vivre dans une grande métropole ou alors aller dans une ville moyenne, aller dans la ruralité ou aller à l'étranger. Ce qui veut dire qu'ils ont un terrain d'expérimentation qui est extrêmement large, quand les ruraux ont un terrain d'expérimentation et de projection beaucoup plus limité.
Claudine, elle considère qu'elle est prise pour une plouque par les politiques. Ça veut dire beaucoup de choses.
Oui, et je pense que parler politique, c'est une façon de résumer le sujet, et c'est pas illogique de le faire, mais en réalité, ce sentiment de décalage, il dépasse, à mon sens, la question du politique. C'est-à-dire que quand vous êtes un jeune, un moins jeune dans ces territoires-là, le fait que quand vous allumez la radio, par exemple, vous entendiez parler des difficultés de transport pendant les JO à Paris, alors que vous, vos difficultés de transport, elles sont quotidiennes, le fait que vous entendiez parler de la végétalisation des toits dans les grandes métropoles, alors que vous, vous avez ô combien d'autres enjeux, ça donne un sentiment de décalage. Mmh. Et puis par ailleurs, il y a un regard qui peut être en partie critique des urbains vers les ruraux, mais tout ça est beaucoup plus intériorisé pardon, et repose sur ces enjeux de représentation et de manque de rôle modèle, de figure d'incarnation.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
Décidément, 2025 n'est pas tendre avec la Marianoche. Après une émission sur la provincialisation en janvier, voici un sujet sur les territoires. Ça fait beaucoup pour une Parisienne qui, jusqu'à peu, pensait que la Terre était plate après la vallée de Chevreuse et que l'Atlantide n'avait pas disparu, que ça s'appelait juste Limoges. Manon, respirez un grand coup dans le quiz, on va partir.
Ma mère vient de Provence.
Mais oui, mais comme tous, vous savez ce chiffre que je voulais donner à un moment de l'émission. Je crois qu'il y a un Parisien sur trois, il y a un tiers des Parisiens qui est né en dehors de la région parisienne.
Évidemment.
De toute façon, le débat est clos. Manon, respirez un grand coup. Dans le quiz, on va partir à la découverte des expressions régionales. Je vous épargnerai les accents, je le garde pour notre émission sur la glottophobie. Jouons au zoom-zoom test. Direction tout d'abord l'Aquitaine et plus précisément la belle ville de Bordeaux, cité chère au cœur de Cyril Lacarrière, puisque longtemps dirigée par Alain Juppé, qui en plus d'avoir été toujours fidèle à son idole, le président Chirac, a également été pour lui un modèle de management souple et participatif.
Silence, chroniqueur de bas étage.
À peine arrivé, Manon va visiter un des lieux symboliques de la ville, le célèbre magasin de cannelés Baillardan. Après avoir éclaté une boîte de 12 et donc son PEL, en 5 minutes, comment devra-t-elle exprimer sa satisfaction en bord de luche ? C'est cher bon ? C'est gavé bon ? C'est over bon ?
B.
Ah bon ?
Gavé.
Ah bon ? Bah, c'est pas une réponse. C'est cher bon ?
Oui.
C'est une bonne réponse de Quentin.
Oui, bah oui.
À Bordeaux, gavé is the new trop. On ne dit pas over bon ou alors c'est B de bail. En revanche, où peut-on entendre que c'est cher bon, justement ? À Monaco, parce que tout y est cher ? À Angers, parce que n'ayant pas l'habitude, le moindre truc qui est cher paraît très cher. Ou à Lyon, j'ai pas d'explication, mais c'est comme ça, faut me croire sur parole.
C'est Lyon.
C'est bien, quand vous me croyez sur parole, vous donnez la bonne réponse.
Ah.
C'est effectivement bienvenue à Lyon, la capitale des Gaules, qui n'est pas Barcelone, comme vous l'avez cru longtemps, Manon. Lyon, où on ne dit pas ce restaurant est trop bon, mais ce bouchon est cher bien. Et comme je sens, Manon, que l'évocation des bouchons lyonnais vous donne envie de vous taper une andouillette là tout de suite pour le goûter, je vous propose de pousser la porte d'un de ces établissements typiques. Et Quentin, si je vous dis que Manon se la racle parce qu'elle a pris une bonne gâche, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'elle s'est étalée sur le lino après avoir trop forcé sur le brouillis, une Alicia Vulot, comme on dit dans le métier. Qu'elle se la raconte parce qu'elle a réussi à choper une super table ou qu'elle s'est régalée en mangeant une brioche.
C'est
ouais.
Ah, c'est fou, ça a fusé. Oui, si vous êtes assez sûr de vous, vous connaissez bien Lyon.
Ouais, j'adore Lyon.
Quentin,
ouais.
Connaissez le vieux Lyon, le 4e arrondissement,
le Traboul,
les portes de la Croix-Rouge, le Traboul, évidemment. Et vous, vous connaissez encore mieux Lyon, visiblement. C'était la réponse B.
Ah, bah,
se la racler en lyonnais, c'est se vanter. Exemple, Quentin se l'est raclé pendant 3 jours après sa seule victoire dans le quiz depuis octobre. Quant à l'expression trouver une bonne gâche, ça signifie trouver une bonne table. Ici, on peut entendre Quentin essayer de trouver une bonne gâche.
En espérant que le grand Nagui, Onagui, fasse de moi l'un de ses apôtres et qu'il nous écoute cet après-midi.
Ça marche aussi dans le milieu professionnel. On ne s'en lasse pas.
Mais
c'était
que tu
avant, c'était avant qu'il vous rabroue en direct en vous expliquant qu'il fallait
pas venir. On est fâchés.
Voilà. Tant mieux. On ne s'en lasse pas. Mais il n'y a pas que le boulot dans la vie, il y a aussi le sexe. Admettons que Quentin ait décidé de réaliser un micro-trottoir à Lyon. Si après une rude journée de travail, démarrée à 11h15 et terminée à 15h30 avec une pause déj dans un bouchon de 2 heures, le tout, je le rappelle, à valeur actuelle, aux frais du contribuable, il a envie soudain de s'adonner au plaisir des sens. Que doit-il faire pour arriver à ses fins selon la méthode lui, bien sûr, qui n'est pas celle de tous les hommes, not all men, comme le dit le tatouage dans le dos de Cyril Lacarrière. Quentin doit...
Oh non.
Beaucoup d'informations sur cette question.
Ah, vraiment, ouais.
Quentin doit... Piave...
Quoi ?
Dicrave.
Mais c'est quoi la question déjà?
Vous dire qu'il y avait beaucoup d'incises dans ma question?
Allons-y.
Si Quentin veut arriver à ses fins,
oui,
la
bouillave,
en gros.
Oui, voilà. D'accord, okay.
Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit piave, dicrave ou balnave?
C'est... Pardon.
Oh, c'est fusé.
B, moi j'irais B.
Ouais, vous diriez, vous êtes parti pour une. un carton plein de l'enchaîne de la nullité. Non, je peux pas vous accorder le point. C'était A et C. Oh. A et C, puisque Piave.
Faut dire qu'on s'est à chaud multiple.
Piave,
aussi.
C'est boire. Clair. Et Balnave, c'est mentir. Et ce sont là, hélas, les deux mamelles de la méthode, lui, pour attirer la gente féminine dans ses pernicieux filets. Demandez voir à Hélène Gâteau. Il l'a enivrée à la Suze Cassis en lui faisant croire qu'il aimait les chiens. Un monstre. Mais remontons vite dans le.
C'est
dommage, je vais t'arrêter le truc sur Hélène Gâteau. Au lieu de parler à la régie comme un con. Un point en moins. Mais remontons vite.
C'est qui me parle.
Taisez-vous en régie. Un point en moins, tout le monde en régie. Mais remontons vite dans le petit train du Gai Savoir. Direction, nous verrons plus tard. Mais d'abord, pouvez-vous me donner les différentes façons oui. d'appeler un sac de course dans notre beau pays. En Nouvelle-Aquitaine.
Ah, mais y a pas du choix.
Une poche.
Une poche, bonne réponse de Quentin, c'est incroyable, il a mis un point. Dans le centre et en Bretagne.
Je sais pas, un sac.
Alors, je vous donne une petite indication. Gérald, mon auteur, quand il revient de la colline du Krak, il revient souvent avec un petit.
Hein?
Bah une aiguille.
Un pochon.
Dans la région PACA et les Hauts-de-France, comment appelle-t-on un sac de course?
Une sacoche. Je vais dire.
C'est pas loin.
Ah, un sac en papier.
Un sachet. Oh, Quentin, vous l'enlevez de la bouche. Attention, Quentin a marqué 3 points. On garde le rythme, on part pour une petite virée shopping. Virée shopping, Manon. Imaginons, c'est de la science-fiction, mais imaginons que vous ayez à la fois de l'argent sur votre compte en banque et l'envie de faire du shopping dans les territoires. Justement, à vous de me dire dans laquelle de nos belles régions êtes-vous si vous repartez de chez Bershka avec un crop top dans le cornet. Vous êtes en Lorraine, dans le Poitou ou dans le Métavers?
Lorraine.
Bébé.
Ah.
Poitou.
C'est une remontada de Quentin. Lui, la Lorraine, c'est le nom du pochon.
Ça là-bas,
prend effectivement, le cornet. On dit comme ça, et on dit comme ça aussi en Suisse. On termine en fanfare avec un poisson.
Mais là, parce qu'il est tombé de mots, c'est le cornet.
Le cornet, oui, je dis.
La Lorraine, c'est comme ça qu'on dit. Mais non.
En Lorraine, c'est comme ça qu'on dit. Là-bas,
vous avez dit
sac,
le pochon. Hein.
C'est un cornet. Vrai ou faux, est-il possible à Marseille de voir Manon sans péguer en Estras?
Oula.
Ah oui, c'est
oui,
vrai.
Oui, ça doit être possible.
Non, c'est faux. Évidemment, il est possible que Manon s'empègue. Elle fait ça tous les week-ends en happy hour. Mais en Estras, non, car la Marianoche veille à son outfit. Être en Estras, c'est être mal fagoté.
Ah oui,
nous
non,
arrive
jamais.
Ça, oui. Vraiment, jamais à Strasbourg, Cyril risque de se coincer le schmutz s'il remonte trop vite la tirette.
Vrai?
Faux. Ou alors, il est encore plus tordu que la Béchiprat. On peut se coincer quelque chose dans la tirette puisque c'est la fermeture éclair, mais un schmutz, c'est un bisou. Ça serait un peu bizarre. Enfin, vrai ou faux, dans les Hauts-de-France, vous pouvez vous tâcher la marronne avec de la chirloute.
Vrai.
C'est faux.
C'est vrai, Manon. Et vous remportez le quiz.
Yes.
La marronne est un faux ami puisque c'est le pantalon et la chirloute, c'est du mauvais café. Fin de ce Tour de France et victoire, non pas de Manon comme je l'ai annoncé, désolé pour cette sensation émotionnelle, mais Quentin,
bah oui,
c'est la remontada du siècle.
C'est sa France à lui, évidemment.
Ça vous embouche un coin.
Ça m'embouche un coin. Ouais. Néanmoins, parler durant un quiz à la régie est passible de sanction. Peu importe.
Il faut que ça.
Un mot super vague pour décrire une réalité super complexe. Bienvenue dans la France des territoires. On zoome sur cette expression cet après-midi avec la fondatrice de l'association Rura qui lutte justement contre les fractures territoriales, Salomé Berlioux. Salomé, vous avez aussi co-dirigé le livre Loin de Paris, raconter les territoires, qui est sorti, je le rappelle, aux éditions de l'Aube. Pendant la crise du Covid, on a beaucoup parlé des néo-ruraux. C'était le terme à la mode, qui cherchaient un meilleur cadre de vie dans les territoires. Ça part aussi peut-être d'ailleurs d'un cliché, encore un, sur les territoires. Est-ce qu'on sait ce qu'ils sont devenus, ces fameux néo-ruraux?
Oui, il y a eu une espèce de fantasme de la revanche des campagnes post-Covid, parce que concrètement, il y avait quand même beaucoup d'urbains qui avaient fantasmé la possibilité de vivre avec une piscine, un grand jardin, si possible à Noirmoutier ou à Uzès, en rentrant à Paris par la grâce du télétravail. Désolée si je choque des gens. Mais en réalité, donc, ce mouvement... avec des départs des grandes métropoles qui existent, hein, qui n'est pas faux factuellement, mais d'abord il n'est pas non plus si massif, et ensuite on voit d'un point de vue notable des mouvements plutôt vers la périphérie des grandes villes, vers les banlieues donc, et puis vers des villes moyennes, et ça avait commencé bien avant le Covid.
Et ça perdure.
Ça perdure, mais en revanche, il n'y a pas de grand départ massif vers le Morvan, la Nièvre ou les Vosges, c'est pas vrai.
On choisit des villes moyennes plutôt.
Oui, plutôt. Petite. Et d'ailleurs, les ruraux le disent bien, on a des discussions assez passionnées chez Rura avec des élus locaux qui disent notamment, et je pense au Morvan et à la Nièvre, qui disent, mais bien sûr, en fait, ils viennent et puis au premier hiver, ils repartent.
Quentin. D'ailleurs, ils sont toujours appelés les Parisiens. Ça peut être une résidence secondaire, ils ne sont jamais acceptés comme
oui,
des nœuds, quoi.
Et en fait, quand on cherche à se pencher sur la réalité de ces néo-ruraux, ce qui est intéressant et pas neutre par rapport à notre sujet, c'est que souvent on se demande comment eux ils s'intègrent et pas tant comment ils sont intégrés par le territoire. Mmh. À nouveau, on cherche surtout le regard, la vie, l'expérience des urbains qui vont s'installer à la campagne parce qu'on trouve ça en réalité assez exotique, sans se poser la question par exemple des conflits d'usage qu'il peut y avoir avec les habitants, avec les locaux en réalité.
La crise des Gilets jaunes, elle a changé notre regard aussi sur les territoires ?
En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que avant la crise des Gilets jaunes, avant le mouvement des Gilets jaunes, chez Rura, donc, on avait fondé cette association qui à l'époque s'appelait Chemin d'Avenir, et on frappait aux portes des ministères, des entreprises, des médias aussi, et de l'économie sociale et solidaire pour dire attention, on a une espèce de carte mentale des inégalités en France qui est ciblée sur les grandes métropoles et leurs banlieues. Sachez qu'il y a aussi des défis dans ces territoires-là et que c'est au mieux corrosif, au pire explosif, peut-être qu'on pourrait s'y intéresser. En 2016, quand je fonde l'association, les gens ne me rient pas au nez, mais en tout cas me disent il n'y a pas de sujet. Les jeunes ruraux, les jeunes des... ça n'est pas un sujet. Aujourd'hui, force est de constater qu'on a identifié le sujet à l'échelle nationale. De là à apporter des réponses concrètes, on en est encore loin parce qu'il y a des décennies de retard.
Rapidement, parce qu'avec vos conneries dans le quiz, on est en retard.
En deux mots, Salomé Berliou, comment on peut résorber ce gouffre qui existe entre Paris et les régions ?
D'ailleurs, c'est tout le sens de Loin de Paris. Ça ne veut pas dire qu'un livre suffit, mais ça veut dire que si on cherche à apporter des récits plus justes, à faire émerger des figures d'incarnation, à apporter des nuances sur ces territoires et à aborder aussi les vrais enjeux de ces habitants-là. C'est pour ça d'ailleurs que dans le livre, on a 26 auteurs qui vont aussi bien de profils d'experts comme Jérôme Fourquet de l'IFOP que de habitants dans ces territoires-là, une élue locale, un médecin de campagne, une factrice en Outre-mer, pour bien attirer l'attention sur ces profils qui sont encore une fois très nombreux et leurs défis du quotidien. On pourra peut-être ne pas résumer la question à celle de l'agriculture et apporter des solutions concrètes qui sont l'affaire de tous. Ça a l'air un peu banal quand on le dit comme ça, mais ce n'est pas pour rien si chez Rura, on travaille aussi bien avec les pouvoirs publics qu'avec les entreprises, les médias ou l'économie sociale et solidaire. C'est qu'une association comme nous peut très bien faire son travail d'accompagnement des jeunes. Encore une fois, 13 000 jeunes accompagnés depuis le début, peut-être 20 000 demain, mais il s'agit de 10 millions des moins de 20 ans qui vivent dans ces territoires-là. C'est là où la solution, elle ne peut venir que par un changement de mentalité, d'où ce livre, d'où la collection, d'où nos campagnes de déconstruction des mythes autour de la ruralité et par des effets de levier très puissants qui doivent être faits par des acteurs beaucoup plus puissants que nous, pouvoirs publics et entreprises en tête.
Loin de Paris, raconter les territoires. Vous écoutez France Inter, il est 16h48. Manon, l'heure de la personne à suivre, si vous
voulez. Oui, je vous présente Louise Courvoisier. Elle a 30 ans, elle est française et elle vient tout juste de remporter le César du meilleur premier film.
Vingt dieux.
On suit un ado de 18 ans. Et oui, Louise Courvoisier, la réalisatrice à qui on doit le film Vingt dieux, sorti l'année dernière. Un succès surprise avec plus de 900 000 entrées. Une plongée dans l'univers agricole du Jura qui donne la part belle à cette jeunesse rurale, cette jeunesse des territoires dont on parle assez peu. Et Louise Courvoisier connaît bien son sujet. Elle-même est le fruit du Jura. Elle a grandi et habite encore dans cette région entourée du monde agricole. Très vite, elle s'intéresse au cinéma par faire des études à Lyon, à l'école supérieure de cinéma. Elle enchaîne la réalisation de courts-métrages, toujours en rapport avec sa région d'origine. L'idée de Vingt dieux lui est venue en 2019. Elle a travaillé d'arrache-pied pour obtenir des financements pour terminer l'écriture et surtout peaufiner son casting. Tout a été fait dans le Jura. Elle raconte au monde avoir couru les bals agricoles, les sorties de lycée et les courses de tracteurs-tondeuses, j'ai découvert ça, pour trouver ses héros, toujours dans son Jura natal. C'est comme ça qu'elle a trouvé son héroïne, la jeune fermière Maïwenn Barthélémy, 22 ans, qui a été récompensée du César de la révélation féminine ce week-end. Du jour au lendemain, elle est passée d'apprentie sur une exploitation de vaches laitières au red carpet des Césars. Belle ascension. Ce qui a plu dans Vingt dieux, c'est le fait que Louise Courvoisier arrive à filmer la ruralité sans phare, loin des clichés misérabilistes, on en parlait. Chez elle, la campagne n'est ni idéalisée, ni caricaturée. Elle est rude, elle est vivante, elle est politique, elle est jeune. Louise Courvoisier fait partie de cette nouvelle génération de cinéastes qui osent faire des films sur tous les territoires qui composent la France. Il y a deux deux ans, Jean-Baptiste Durand avait aussi été césarisé pour son film Chien de la casse, qui met à l'honneur l'héros. Pour Louise Courvoisier, il est important de se préserver du réseau parisien. Elle dit que ça lui permet de rester sincère dans ce qu'elle raconte et d'être protégée de l'attente des autres. Elle n'est pas prête de quitter son Jura natal.
Merci beaucoup, Manon.
Zoom zoom zen. Mathieu Noël sur France Inter.
C'est un rescapé qui nous rejoint à présent. Un rescapé du restaurant vietnamien Les Délices d'Hanoï, où visiblement lundi soir, les crevettes au gingembre n'avaient pas été pêchées de la veille. S'en est suivi pour Pierre Courat d'une nuit blanche en forme d'épopée gastrique, et c'est l'intestin encore endolori et les sphincters aussi fringants que sa trompe de stache qu'il s'est présenté à nous hier matin. Ma première question est donc, est-ce que ça va mieux, Pierre ?
Ce fut un sacré voyage. Merci.
Vous avez l'air beaucoup mieux. Ah, on est transparent avec nos auditeurs.
Il est moins blanc, quand même.
Pierre, tout ce qu'on s'est dit sur les territoires, résumé en une minute chrono, c'est à vous.
Et les territoires, ces vastes espaces inhospitaliers qui prennent naissance au-delà de Bagnolet. Pour Manon, s'élève à cet endroit-là le Mordor, d'où règne l'œil de Sauron au sommet des Mercuriales, évidemment. Mais les territoires, pour beaucoup d'entre nous, c'est chez nous, en fait. On vient des régions, l'autre terme consacré. Et à chaque fois, vous remarquerez que ça devient péjoratif. Si bien que territoire est déjà un terme désuet pour parler de ce qui n'est pas Paris ou ce qui ne vient pas d'une grande métropole. Pour prendre le contre-pied, notre invitée Salomé Berlioux propose aux 40 millions de Français qui vivent dans les territoires de se réapproprier ce terme. Chaque territoire est spécifique, même s'il y a une sorte de vécu commun, comme nous l'a rappelé notre invitée, qui a monté une association pour battre en brèche les clichés, des idées reçues qui peuvent avoir des répercussions économiques et sociales alimentées par les responsables politiques eux-mêmes. Territoire, ce n'est pas uniquement la ruralité, c'est encore moins exclusivement l'agriculture. Mais si on se base sur cette vision erronée de 60% de la France, on crée des incompréhensions. Selon Salomé Berlioux, qui a cité le rapport à la voiture, au service public et au divertissement, le vote pour certains partis, les crises comme les gilets jaunes, ça se comprendrait mieux si on décidait de décentrer notre regard et de décentraliser vraiment notre territoire.
Merci Pierre, comme quoi la crevette est finalement bien passée. Vous voilà de retour en forme. Tania Dutel, vous venez vous-même d'un territoire et vous allez pouvoir nous en dire plus sur ces paysages lointains, ainsi que sur toutes les villes que vous traverser pour votre spectacle.
Tout à fait, merci Mathieu pour cette passe décisive. Alors Salomé Berlioux, vous êtes la directrice générale de Rura, Rura pour ruralité. Vous venez d'une petite commune de l'Allier, moi aussi, enfin pas de l'Allier mais du Rhône, Beaujolais plus précisément. Voilà où les pélos, donc les gens, mais on dit les pélos, où les pélos disent, ils mettent des i partout, hein, je vais y faire. J'ai dû très vite cesser de le dire en arrivant à Paris puisqu'on se foutait bien de ma gueule. Et de nouveau, si c'est quelle heure, voilà pareil, j'ai dû apprendre à dire il est quelle heure. Et en même temps, je me dis, mais pourquoi ? C'est quelle heure ? C'est 20h12, ok. Il est quelle heure ? Il est 20h12, c'est qui ? Il. Quel pélo est il ? C'est qui ? C'est qui ? Bon, voilà, après, pour repérer mon petit village, parce que je ne veux pas dire son nom, pour le repérer, sachez que voilà, on avait une poste, donc village dynamique. Elle a fermé depuis, puisqu'il n'y a plus de courrier. Après, le dynamisme de mon village repose essentiellement sur le bar tabac. Oh là, le lundi, il est fermé, donc le village est en deuil, à attendre le mardi pour vivre de nouveau. Et la salle polyvalente du village, est-ce qu'on en parle de la salle polyvalente ? C'est un lieu quasi sacré, hein. Déjà, c'est polyvalent. T'as un événement quelconque à organiser, bah, tu vas louer la salle polyvalente, hein, parce qu'il y a des tables et des chaises, donc tu peux faire ce que tu veux. Et les gens qui disent « Oui, bah, vous avez des maisons, vous pouvez faire ça chez vous. T'as une scène chez toi ?» T'as une scène chez toi ? Parce qu'il y a une scène, en fait, dans la salle polyvalente. Et je vais te dire qu'un spectacle familial sur scène, bah, c'est mieux que devant la télé, hein, puisque chez nous, on a tous notre canapé devant la télé, donc le spectacle devrait être entre le canapé et la télé. La salle polyvalente, c'est mieux. J'ai vécu un drame il n'y a pas long. En fait, à chaque fois que je rentre chez mes parents, ils me disent qu'ils font les courses à la ferme d'Épinay. Ça n'existait pas quand j'étais plus jeune. Et je me dis, super, ils vont dans une vraie ferme. Donc, circuit court, un agriculteur qui passe pas par quatre étapes pour vendre des produits et récupérer que dalle. Vlatipoc, l'année dernière, je prends la Laguna. Je passe devant une zone indus. Que vois-je ? Un magasin qui s'appelle Ferme d'Épinay. Oh là là, je suis rentrée, j'ai dit à mes parents, vous foutez de ma gueule depuis combien d'années ? Elles sont où les vaches ? Il est où le coq qui réveille la basse-cour ? Il est où le tabouret pour traire ? Nulle part. Pourquoi ? Parce que c'est pas une ferme. Donc faut pas l'appeler Ferme d'Épinay, faut l'appeler magasin qui vend des produits de la ferme. Bon, je tourne donc toutes les semaines, je visite pas mal de territoires. Il y a un point commun à chaque endroit. Les sorties de gare sont dégueulasses. Ah, tu sors à Dijon, c'est bien simple, tu veux remonter dans le train pour repartir. Alors que la ville est jolie, mais c'est indétectable en sortant de la gare. Hein. En revanche, on a de belles gares. Et pourquoi ? Tu sors de la gare, tu regardes devant toi, par derrière, ce sont les gens qui habitent en face dans des immeubles moches qui voit les belles gares. Et puisqu'on est là pour parler des territoires, parlons d'une grosse différence Paris-territoire. Je connais les deux, j'aime les deux. À Paris, on apprend à vivre avec le bruit. En région, t'as un citadin qui vient s'installer, il se fait réveiller par un coq qui va chez les flics. Et si les flics ne font rien, eh ben il va chez Julien Courbet. Il y a des gens qui sont allés dans son émission parce qu'ils sont en conflit depuis 6 ans à cause d'une haie mal taillée. Il y a un couple qui veut se marier dans son jardin, mais il repousse la date parce que la haie dépasse de 4 mètres. Mais le gars, en fait, il veut pas couper la haie, donc il n'y a pas de mariage. Une seule solution, bah pas la cisaille, hein, non ? Julien Courbet.
Évidemment. Merci Tania Dutel. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Et je rappelle que vous êtes en tournée dans toute la France. Vous allez également jouer à Londres, en Australie et en Nouvelle-Calédonie en mai. Eh ben, on se fait rien. Merci Salomé Berlius de nous avoir permis de déconstruire un peu ce terme de territoire qui a donc remplacé celui de province, mais pas pour le meilleur forcément. Je rappelle votre livre Loin de Paris, celui que vous coordonnez en tout cas, Raconter les territoires, c'est aux éditions de l'Aube. Merci d'avoir été avec nous. Zoom, zoom, zen.